Il nous reste deux choses à faire. On a vu un peu le Nouveau Testament. Vous avez remarqué qu'on a évacué toute une partie du Nouveau Testament. Les écrits joanniques. Alors ça, on se le réserve pour la fin. On a fait simplement quelques allusions à l'Apocalypse par laquelle on a commencé. Il faut maintenant, avant de rentrer dans la rédemption dans les écrits joanniques, regarder un peu l'Ancien Testament. Alors évidemment, c'est complètement énorme et colossal. Et on ne peut pas plus faire que donner des pistes. Je ne vais pas fermer ça parce que j'ai un courant d'air là. Alors, pour regarder le mystère de la rédemption dans l'Ancien Testament, j'aimerais partir de ce que nous donne l'Épître aux Hébreux. Ce qui est une manière de regarder l'Épître aux Hébreux. Que je suis parti, j'ai fait exprès de commencer par le Nouveau Testament, appliquant le principe selon lequel c'est le parfait, le Nouveau Testament, qui éclaire l'Ancien. Parce que sinon, quand vous vous trouvez avec la masse de l'Ancien Testament, vous ne savez pas très bien par quel bout prendre cette masse. Le Nouveau Testament qui nous donne le fameux antitype éclaire tout l'Ancien Testament qu'il annonce. Alors, l'Épître aux Hébreux, elle nous présente Jésus comme grand prêtre. À plusieurs reprises, c'est le grand thème de l'Épître aux Hébreux, vous le trouvez dès le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, verset 17. Et puis comme médiateur. En grec, mésites. Médiateur, vous le trouvez à trois reprises dans l'Épître aux Hébreux, et d'abord en 8:6. Et Jésus, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est médiateur d'une meilleure alliance, d'une alliance nouvelle. Et saint Paul présentera cette médiation du Christ comme unique. Donc ça c'est le grand texte de saint Paul sur la médiation. De Timothée 2, 5, qui met en relation l'unicité de Dieu et l'unicité de la médiation. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a aussi qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus. Donc, à partir de là, vous voyez que l'œuvre de la rédemption implique une médiation de type sacerdotal. Vous savez que pour saint Thomas, la notion de médiateur est plus vaste que celle de prêtre. Saint Thomas nous dit que tout médiateur est prêtre. Non, c'est l'inverse. Tout prêtre est médiateur. Les deux notions sont connexes, mais celle de médiateur est plus large. Alors, ce que je voudrais, c'est relire donc avec vous, dans cette lumière, l'Ancien Testament. Pour, vous voyez, ce qu'il s'agit de saisir, c'est l'importance de l'instrument du médiateur, de la médiation, l'importance de l'instrumentalité de la médiation dans cette économie divine que nous regardons, nous essayons de regarder. Dieu procède en usant d'instruments, et particulièrement dans ce dessein qui est premier pour lui, le dessein salvateur qui passe par la rédemption. Ça, c'est un peu le programme. Alors, je vais commencer par montrer que la première chose que nous donne la Bible hébreu, la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, c'est le dépassement de la médiation. C'est-à-dire que la première chose à montrer, c'est qu'il y a dans l'économie divine une intervention directe de Dieu. Et le meilleur signe, c'est que l'Ancien Testament en hébreu n'a pas de mots qui correspondent au grec mésites. Il n'y a pas de hébreu correspondant. Alors qu'il y a des faits qui correspondent. Par exemple, quand vous avez Jonathan qui intercède auprès de Saül pour David, Vous n'avez pas, c'est vraiment un rôle de médiateur au point de vue humain, et vous n'avez pas le terme qui apparaît, Messites, enfin le terme hébreu correspondant. Alors ça, c'est très important. Donc, premier point à regarder, c'est cette intervention directe de Dieu qui est affirmée. Dans la manière dont Dieu réalise son dessein, il intervient lui-même directement, immédiatement. Et cette idée est évidemment liée au monothéisme absolu d'Israël. Israël développe sa religion face en concurrence avec des religions païennes où il y a une multitude de divinités secondaires, d'hommes divinisés qui peuvent jouer le rôle de médiateurs et d'intercesseurs. Donc il y a toute cette affirmation dans l'Ancien Testament, cette absence plus exactement dans l'Ancien Testament, tout d'abord de la notion de médiateur qui se voit dans l'affirmation de l'intervention directe de Dieu. Vous en avez un écho, ça, dans le Nouveau Testament, chez saint Paul. Saint Paul montre comment Dieu est au-delà de tout médiateur. C'est en Galates 3:20. C'est un texte assez obscur, où saint Paul dit « Le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Or, Dieu est seul. » Donc, en fait, il oppose Moïse, qui est le médiateur visé, dans le don de la loi. Saint Paul, regarde dans l'épître Galates, saint Paul, qui est le médiateur, avec en plus les anges, qui donne la loi au peuple d'Israël. On reviendra sur lui. Et il nous dit, ce médiateur, il implique les deux parties, Dieu et Israël. Vous voyez ? Alors que Dieu, il est seul. Donc vous avez l'écho là chez saint Paul de cette transcendance absolue de Dieu qui écrase tout médiateur. C'est la première chose à rappeler. Dieu est seul, pour saint Paul, à avoir fait la promesse. On retrouve la promesse à Abraham de la terre promise. Alors que la loi, il y a Moïse, qui implique une espèce de contrat bilatéral entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est pour ça que ça ne marche pas, parce qu'Israël, évidemment, n'est pas à la hauteur, alors que la promesse, elle demeure. Donc, vous voyez tout le raisonnement de saint Paul, avec sous-jacent cette affirmation du monothéisme. Dieu est d'une transcendance absolue, aucune créature ne s'élève jusqu'à lui. Il y a un texte dans Job où on voit bien comment on peut regretter, vous voyez, le pieux juif, qui est placé dans ce cadre un peu raide du monothéisme, il aimerait bien qu'il y ait un peu un intermédiaire. Et vous avez dans Job une expression de Job qui montre bien qu'il regrette qu'il n'y ait pas de médiateur. Je crois que c'est Job 19:33. Je n'ai pas noté la référence. Job 9:33. Où Job dit, si seulement il y avait un arbitre entre nous, entre Dieu et moi, pour poser la main sur nous deux. Ça, c'est le geste de l'arbitre qui pose la main sur les deux parties en présence pour montrer qu'il est arbitre et qu'il va veiller à l'exécution d'un procès dans la justice. Et vous voyez, Job dit, si seulement il existait cet arbitre. Et le mot arbitre, en grec, dans le grec de la Septante, c'est messites, c'est médiateur. Donc vous voyez cette espèce de regret, il n'y a pas de médiateur. Alors évidemment, l'absence de médiateur fait que vous avez un lien direct et immédiat avec Dieu. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est très important. Premier point à affirmer, il n'y a pas besoin de médiateur. Le Créateur, qui est le Créateur de chacun de nous, de chacune de nos âmes spirituelles, a un lien immédiat et direct avec nous. Cette intervention directe de Dieu, elle va prendre dans l'Ancien Testament une première, en ce qui nous concerne, la première orientation dans l'ordre du rachat et de la délivrance. Donc on retrouve ce qu'on a dit ce matin. Mais maintenant dans l'Ancien Testament. Pour décrire comment Dieu intervient dans le salut et donne le salut, vous avez deux mots employés très souvent par la Bible. Un premier mot qui signifie le rachat, qui est la racine PDH ou PADA. Et puis vous avez un autre mot que l'on connaît généralement, qui est Gaal, la racine GL, qu'on cite souvent par Goël. Ça, c'est les deux mots pour dire donc Dieu rachète ou Dieu délivre. Le premier mot, celui-là, ça signifie payer une rançon. Donc vous voyez, on est exactement dans cette ligne que vont reprendre les textes du Nouveau Testament qu'on a vus ce matin. Ce qui ne veut pas dire, hein, quand je reprends, qu'il y a quelqu'un à qui on verse la rançon. Le premier lieu où s'effectue ce rachat, cette rédemption, où Dieu paye une rançon, c'est bien sûr pour l'Exode. Où Dieu rachète le peuple d'Israël d'Égypte, de la servitude, de la captivité. Et là, on va lire ensemble le passage dans le Deutéronome. J'espère que vous avez des Bibles. Si vous n'en avez pas, il faut mieux en avoir une. Ça sert. Donc Deutéronome 7-8. Comme c'est l'après-midi, on va prendre son temps et on va lire un peu les textes. Ça détendra. Donc Deutéronome 7-8, ça commence avec le rappel de l'élection divine. Si Yahvé s'est épris de vous et vous a choisi. Donc c'est le choix, l'élection gratuite de Dieu qui regarde là Israël. C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Ils sont en Transjordanie, ils n'ont pas encore franchi le Jourdain. Verset 8, c'est parce que Yahvé vous aime et garde le serment qu'il a juré à vos pères, que Yahvé vous a fait sortir à main forte, et qu'il t'a libéré, passage au singulier, de la maison des esclaves, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc le mot qui est là traduit par libéré, par hostie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans le géogramme, c'est quoi ? Délivré, c'est ce mot-là. Donc racheté. Vous voyez, on a toujours dans les traductions, vous allez flotter entre délivrer, libérer, puisque tous ces termes sont connexes, comme on l'a déjà vu ce matin. Ce qui est important, c'est que vous relevez tout de suite une première notion. La première mention, c'est l'amour. C'est parce que Dieu vous aime. Ce rachat, il se fait dans l'amour de Dieu. Il a sa source là. Il s'inscrit dans la continuité, dans la fidélité de cet amour. Et la preuve, c'est que Dieu, par là, garde son serment. C'est parce que Dieu vous aime et garde le serment qu'il a juré à vos pères. Ce serment, il est lié à la promesse de Dieu de donner la terre promise, le pays de Canaan, aux patriarches et à leur descendance. D'où cette libération du peuple d'Israël de la captivité. Donc vous trouvez là aussi la notion de captivité, d'esclavage, qu'on a retrouvé ce matin dans le Nouveau Testament. Cet esclavage des fils d'Israël, des Hébreux, en Égypte, obligé de faire des briques, etc. Et puis cette mention de Pharaon, du roi d'Égypte, du pouvoir opposé à Dieu. Ça aussi, on l'a vu ce matin avec la puissance des ténèbres. Toujours cette idée d'une confrontation dans la délivrance, dans la rédemption, entre deux puissances opposées. Donc vous voyez, il y a comme deux pôles. Un pôle positif, l'amour de Dieu, la promesse. Un pôle négatif, l'esclavage, le pouvoir oppressif. Et la délivrance se place entre les deux. Le rachat. C'est passé de l'un à l'autre. Alors évidemment, vous avez tous les thèmes qui vont devenir symboliques, puisque là, vous avez Pharaon, roi d'Égypte. Puis là, vous avez la terre promise avec Jérusalem. Donc, ça, c'est le fondement du symbolisme qu'on retrouve dans l'Apocalypse, à l'Égypte. Le second rachat, avec le même terme, Pada, c'est plus d'Égypte, c'est de Babylone. Donc ça, c'était par rapport à l'Égypte. Et on va trouver, par rapport à Babylone, où les Juifs, là, ils ne sont plus en Égypte, mais ils ont été dispersés, ils ont été plutôt envoyés en exil, surtout après 587, donc en Babylonie. Et il faut bien voir que c'est une catastrophe magistrale pour Israël. À ce moment-là, à vue humaine, Israël est rayé de la carte, disparaît. Tous les hommes valides, les gens bien, sont envoyés en déportation à Babylone. Isaïe va montrer et va réutiliser les mêmes termes comment il s'agit d'un nouveau rachat de Dieu qui va sortir les Juifs envoyés en exil, déportés là-bas de la Babylonie. Donc vous l'avez par exemple au chapitre 35 d'Isaïe. Et c'est toujours le même terme. Vous savez, c'est un chapitre qu'on nous sert régulièrement les dimanches matins, pour ceux qui sont ici, qui sont levés. Que se réjouissent le désert et la terre aride, que jubile la steppe et qu'elle fleurisse. On doit chanter ça aussi, je ne sais plus quand. Mais... au vigile, c'est ça, oui. C'est pour ça que je ne sais pas. Alors, au verset 4, dites au cœur léger, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. La vengeance vient, les représailles de Dieu, il vient lui-même vous sauver. Donc cette vengeance, toujours cette idée de confrontation, et cette confrontation-là au pouvoir qui est le pouvoir des Babyloniens, et cette intervention directe de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient sauver. Et alors au verset 10, vous avez « Les libérés du Seigneur reviendront, ils entreront à Sion avec des cris de joie ». Une joie perpétuelle, Sion, hein, vous repérez. Il faut repérer ces thèmes symboliques, Jérusalem, Sion, etc., opposés à Égypte, Babylone. Et alors, ce que vous avez traduit là par les libérés, c'est le même thème, c'est les rachetés. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos bibles. Dans le top, c'est racheté. Et c'est plutôt mieux, vous voyez, racheté. Donc, parce que, vous voyez, si vous commencez à traduire de manière fluctuante, vous perdez la continuité. Vous avez une continuité au niveau du vocabulaire entre le premier exode et le retour d'exil. La délivrance miraculeuse contre toute espérance, le retour de ces déportés très rapidement, je ne sais pas, c'est 70 ans après à peu près, sur la terre promise, sur la terre d'Israël. Alors évidemment, vous avez aussi, vous retrouvez dans l'Apocalypse, je vous signale pour vous montrer cette unité de la Bible, dans l'Apocalypse, vous avez le grand symbole de Babylone, chapitre 17 de l'Apocalypse. Babylone, c'est la prostituée. C'est le symbole de l'immoralité, de l'idolâtrie. D'où, donc, Dieu rachète son peuple. Vous allez avoir le même terme, enfin, dans le psaume 130, que vous connaissez bien, parce qu'on le chante tous les jours, sauf les dimanches maintenant, le De Profundis. Les versets 7-8, la fin du De Profundis. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, car le Seigneur dispose de la grâce et avec largesse du rachat, c'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Ce rachat, c'est toujours ça. Donc vous voyez, c'est ce rachat-là est, comment dire, est particularisé, c'est un rachat de fautes. Donc ceux qui disent qu'il n'y a pas d'idée de rédemption des fautes dans l'Ancien Testament, comme on a pu le lire, c'est une bêtise. Alors le second terme, ce terme Gaal. Goël. À l'origine, c'est un terme juridique qui est assez complexe de sens. Il y a plusieurs cas où on l'emploie. Il signifie remplir un devoir de parenté. Vous êtes le parent de quelqu'un, et par exemple quelqu'un qui a été assassiné. Alors vous allez être Goël au sens de vengeur, vengeur du sang. Ah, ça c'est intéressant. Vous avez l'apparition du thème du sang, ou la réapparition qu'on a déjà vue. Donc, il s'agit pour vous de venger un parent assassiné. Et là, vous avez un droit reconnu par la législation hébreu. C'est le vengeur du sang. Goël. Alors évidemment, vous voyez, tout de suite, on réfléchit, le Christ prend la nature humaine pour racheter des péchés. Le premier, l'un des tout premiers péchés, c'est le meurtre d'Abel. Ce sang qui crie. Et l'Épître aux Hébreux dira, le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. L'autre utilisation de Goël, c'est quand on veut signifier que vous remplissez un devoir parenté quand un nom menace de s'éteindre, en particulier par rapport à des propriétés. Vous savez que les propriétés, la terre d'Israël, elle appartient d'abord à Dieu. Le propriétaire d'Israël, c'est Dieu. Et elle est répartie selon les différentes tribus et les différents clans. Et il est primordial que cette terre reste dans le camp où elle est. Donc quand une lignée s'éteint, il faut le rattraper. Et donc vous avez un devoir de Goël. Vous devez intervenir pour empêcher que cette terre reste sans propriétaire dans le clan. Donc vous devez remplir votre devoir de Goël en rachetant ça. Alors ça c'est, bon il y a plusieurs exemples, mais c'est le cas de Boaz par rapport à Ruth. Vous avez dans le livre de Ruth, vous avez toute cette histoire où Boaz doit intervenir, il est poussé un peu à intervenir d'ailleurs par Ruth, pour remplir son devoir de Goël. Alors ça c'est très beau, parce que vous voyez, vous avez un rachat, qui se fait dans un contexte d'amour et d'amour personnel conjugal, parce que Boaz épousera Ruth. Ruth se débrouille suffisamment bien pour que Boaz l'épouse, poussé d'ailleurs par sa belle-mère. Légèrement poussé par sa belle-mère. Donc vous voyez toujours cette continuité. Vous avez là l'exercice d'un droit de rachat dans le contexte d'un amour, qui est un amour en fait nuptial, conjugal, et vous savez que Boaz, c'est l'arrière-grand-père de David, c'est l'ancêtre du Christ. Alors ce terme-là, donc il y a cette espèce de signification, vous voyez, juridique, pour légitimer certaines actions, pour obliger à certaines actions, il va être utilisé pour décrire l'action de Dieu, qui rachète et qui délivre. Il est utilisé de manière complètement parallèle au terme précédent. On trouve les deux termes mis en parallèle, par exemple, dans Osée. Vous savez, c'est le parallélisme synonymique, c'est-à-dire que vous avez deux fois la même phrase avec quelques légers changements de mots. Et le changement de mots, là, affecte justement, on passe de Pada à Gahal. C'est le fameux texte où Dieu dit, du pouvoir, il parle d'Éphraïm. Il se demande s'il va racheter Éphraïm de la mort. Il dit, du pouvoir de Shéol, du Shéol, le Shéol, le séjour des morts, je les rachèterai, de la mort je les délivrerai. Donc vous avez rachat, délivrance, utilisé de manière parallèle et donc synonymique. Vous savez que ce texte est cité par saint Paul, la suite, pour parler du mystère pascal et de son fruit ultime, la résurrection des corps. C'est « Mort, où est-elle ta victoire ?» etc. Alors, on va trouver ce terme, « Goël », donc pour décrire l'action de Dieu, et on va le retrouver dans l'Exode. Je vous ai dit que c'était parallèle au terme « Pada », et donc parallèlement à ce qu'on a vu dans le Deutéronome, on va le trouver dans l'Exode. Alors prenez Exode déjà 2:24. On va voir un peu le contexte, voir cette implication de Dieu dans le destin de son peuple. C'est pas du tout celui que, le Dieu qui rachète, le Dieu de la rédemption, n'est pas du tout un Dieu lointain. L'implication qu'il va faire dans l'incarnation et dans la mort du Christ sur la croix, elle est déjà présente en figure. Et en réalité, dans l'Ancien Testament. Je commence au verset 23. Or, pendant ces longs jours, mourut le roi d'Égypte, qui est très méchant. Les fils d'Israël gémirent, non pas qu'ils meurent, mais du fond de la servitude. Ils crièrent, et leur cri d'alarme monta vers Dieu du fond de la servitude. Voilà, Dieu entendit leur soupir. Donc, cette proximité de Dieu. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Donc vous avez cette proximité de Dieu dans la continuité de l'alliance faite avec les patriarches. On retombe toujours sur ce thème d'un amour attentif, fidèle, au-delà de toutes les fluctuations. Alors le terme lui-même dont on parle là, ce fameux Goël, il intervient au chapitre 6 de l'Exode. Exode 6, particulier 6-8. Alors ça, c'est un texte qui est très intéressant. Pour montrer un peu comment Dieu rachète. Alors ça commence, « Je suis Yahvé ». Vous l'aviez déjà dès le verset 2. Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis Yahvé ». Donc c'est, vous savez, c'est Dieu qui apparaît à Moïse, qui convoque Moïse pour qu'il joue son rôle dans la libération d'Israël. Et première chose que fait Dieu, c'est s'affirmer lui-même. Je suis Yahvé. Je vous ferai sortir de dessous les corvées d'Égypte. Je vous délivrerai de sa servitude. Et je vous rachèterai, voilà le mot, Goël, par un bras étendu et par de grands châtiments. Notez la mention des châtiments. La difficulté de ce rachat qui va être marqué par la succession de différents châtiments, tous plus effrayants que les uns que les autres. Toujours en ayant en vue le grand châtiment qui va atteindre le Christ. Qui se fait malédiction, comme dit saint Paul dans le texte qu'on a vu ce matin. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis Yahvé, vous voyez, il insiste, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré ma main levée de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Donc toujours cette mention de la promesse. Cette promesse s'actualise par la sortie et la rédemption. Et je vous le donnerai en possession. Je suis Yahvé. Donc vous voyez, vous avez une espèce d'insistance quasi lourde sur l'affirmation de Dieu dans cette action de libération. Il y a une inclusion, comme on dit. Ça commence par « Je suis Yahvé », ça finit par « Je suis Yahvé ». Et l'autre chose à remarquer, c'est que, c'est ce que dit le Seigneur, il dit, « Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. » Au verset 7. C'est-à-dire que Dieu n'arrache son peuple à l'esclavage, pas pour le laisser dans la nature, même s'il va le laisser un peu dans le désert. Il n'arrache à l'esclavage que pour se l'attacher à lui. « Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. » Donc, ça montre bien que le rachat, la délivrance en l'occurrence, hein, dans cet ordre-là, de cette délivrance, cette action du Dieu libérateur, elle se fait, elle est inséparable d'un lien d'amour privilégié entre Dieu et son peuple. C'est l'alliance, si vous voulez. Cette alliance, elle conduit à la délivrance, et la délivrance conduit à un resserrement de l'alliance. Alors c'est pour ça que Goël, ce terme juridique, qui montre celui qui rachète une terre, devient le nom, un nom du Seigneur, un nom de Yahvé, un nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Ça, vous le trouvez dans le Deutéro-Isaïe. Dieu était déjà apparu dans Osée comme quelqu'un qui considérait Israël comme son fils. C'est la fameuse phrase qu'on retrouvera dans saint Matthieu. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est Osée 11.1. Donc il y a déjà un lien de parenté qui est affirmé par les prophètes entre Dieu et Israël. Et vous voyez, c'est toujours cette idée. Le Goël, il intervient par rapport à quelqu'un qui est parent de lui. Et Dieu devient ce Goël par rapport à Israël, qui le rachète. Alors vous l'avez dans Isaïe, dans le Deutéro-Isaïe, dans le second livre d'Isaïe. À partir de Isaïe 41.14, où on voit que le nom de Dieu, c'est Rédempteur. Et ça, c'est toujours Goël. Celui qui rachète. Donc vous voyez, le Deutéro-Isaïe, à partir du chapitre 40, regarde l'exil, le retour d'exil, le retour de Babylonie, dans cette lumière de l'Exode. Et c'est ça où apparaît ce nom de Dieu, c'est le Rédempteur. Alors vous l'avez à partir de 41-14 un certain nombre de fois, comme nom de Dieu. Et encore une fois, ce rachat, regardez là du côté de Goël, va de pair avec le pardon, avec l'effacement des forfaits, des péchés. Vous avez, par exemple, regardé en Isaïe 44-22, vous allez avoir le terme racheté qui va aller de pair avec cet aspect de pardon. Dieu dit à Jacob, j'ai effacé tes forfaits comme un nuage. Vous voyez, c'est très beau comme image. Le nuage qui tout à coup se dissipe dans le ciel. J'ai effacé tes forfaits comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Et racheté, c'est toujours ce terme Goël. Et Dieu insiste sur sa responsabilité dans cet acte de rachat, dans cet acte de purification, de pardon. Dans 43-25, où Dieu a cette phrase magnifique, c'est moi qui efface des forfaits, c'est moi qui efface des forfaits à cause de moi. Je suis le seul . Il n'y a aucune dignité d'Israël dans ce pardon des péchés. Israël ne mérite que la condamnation. Et s'il est pardonné, c'est parce que Dieu le rachète et le pardonne, eu égard qu'à lui-même, qu'à ce qui est Dieu. On va retrouver exactement cela dans la seconde manière dont la Bible va nous parler de l'intervention directe de Dieu dans une rédemption. Non plus l'aspect de rachat ou délivrance, mais là l'aspect de purification, qui là aussi va se retrouver dans le Nouveau Testament, on le verra. Et là, c'est évidemment la purification que l'on voit chez le prophète Ézéchiel, le chapitre 36. Là aussi, c'est Dieu directement qui agit, qui annonce qu'il va agir directement. Alors, ça commence par la même insistance que ce qu'on vient de voir chez Isaïe. C'est rassurant, ils disent à peu près la même chose. Au verset 22. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Donc la même insistance sur l'incapacité radicale d'Israël à mériter le salut. Et Dieu n'agit que pour son saint nom, qu'il veut sanctifier. C'est le verset 23. Je sanctifierai mon grand nom. Donc lui, il veut sanctifier son nom que les fils d'Israël ont profané. Je sanctifierai mon grand nom profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis Yahvé, oracle du Seigneur Yahvé, quand je me montrerai saint par vous à leurs yeux. Cette sanctification du nom est utilisée dans le du nom. Voyez-le. Pourquoi Dieu agit? Pour sanctifier son nom. Ça vous rappelle quelque chose? Évidemment, la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Nous sommes les petits fils de cette rédemption, plus exactement les bénéficiaires de cette rédemption, et nous prions tous les jours que ton nom soit sanctifié. Grâce à cette rédemption, où Dieu a eu en vue la sanctification de son nom. Alors, je vous signale, ce sera important pour quelque chose qu'on va revoir, que ce mot sanctifié en grec, c'est agiazo. Et ça, on le retrouvera. Je vous marque comme ça. Sanctifié. Donc Dieu veut se montrer saint aux nations, c'est-à-dire il veut se montrer tel qu'il est. Il veut se montrer dans un mystère d'amour absolument transcendant, d'un mystère d'amour gratuit qui dépasse tout ce que les hommes méritent, parce que par eux-mêmes ils ne méritent que le Sheol. Alors comment se fait cette intervention de Dieu pour sanctifier son nom? Elle se fait par une purification par la médiation de l'eau. C'est le verset 25. Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purs. De toutes vos impuretés, de toutes vos saletés, je vous purifierai. Donc ça, c'est le thème de l'eau qui va jouer évidemment un très grand rôle. Cette eau, elle purifie jusqu'à l'être profond de ce qu'elle touche. Le cœur, mais qui est au sens de toute la personne dans son être le plus profond, intelligence, volonté, sensibilité. Je vous donnerai un cœur nouveau, et c'est un esprit nouveau que je mettrai au-dedans de vous. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et puis au verset 27, je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Donc cette purification qui touche le cœur profond, elle passe par le don de l'Esprit divin. Et vous remarquez que c'est toujours le geste d'initiative de Dieu, je, toujours répété. Alors voilà, ça c'était pour montrer l'aspect de cette action de Dieu directement appliquée dans la rédemption. Maintenant, il faut regarder comment, parallèlement, est appliquée la médiation, c'est ce qu'on verra tout à l'heure.
Session sur la rédemption, le 20 mai 1993 à Rimont, par le Père Martin, 4e conférence.
Alors, pardon pour l'aspect un peu fastidieux de ce décortiquage de la Bible, mais comme je vous l'ai dit ce matin, je crois que c'est nécessaire. Il y a un passage par cet aspect très matériel et le respect de l'utilisation par Dieu de certains mots avec certaines nuances. C'est le texte que nous lisons pour les frères et ceux qui sont avec nous au réfectoire, de Jean-Paul II, qui est tellement important pour expliquer que on ne peut aucunement mépriser ce conditionnement humain par lequel Dieu a voulu passer dans sa parole. Alors, on a regardé donc, dans cet aspect premier, comment Dieu intervient directement. Il faudrait regarder un intermédiaire très particulier qui n'est pas à proprement parler médiateur. Quand saint Thomas parle du médiateur, il dit, bon, il y a Jésus, il y a le Christ qui est médiateur, et dans l'Ancien Testament, il y a les prophètes et les prêtres. Il ne parle pas des rois. Et donc, à proprement parler, les rois ne sont pas médiateurs. C'est une espèce de figure. Et on le sait bien, étant donné les circonstances dans lesquelles le roi apparaît, qui correspond immédiatement à la figure de Dieu, qui est le véritable roi d'Israël. À proprement parler, le roi est premier. Personne n'est au-dessus du roi. Donc, en ce sens-là, il n'est pas médiateur. Mais Dieu va se servir de figure de roi, de guerrier, de libérateur. Et en ce sens-là, il joue un certain rôle d'intermédiaire. Alors, je vous propose de lire quelque chose qui va nous introduire là-dedans. C'est ce qu'on appelle le protévangile. C'est-à-dire le verset 15 de la Genèse, chapitre 3. Que l'on cite d'habitude comme le premier moment où une perspective de rédemption est ouverte. Donc on est dans la situation du péché originel. Chapitre 3 de la Genèse, le serpent a séduit Ève et a fait tomber Ève et Adam. Genèse 3, 15. Ce qu'on appelle le protévangile. Le protos premier, c'est le tout premier évangile, la toute première annonce d'une bonne nouvelle. Et nous sommes là dans les punitions de Dieu. Dieu maudit le serpent. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux, verset 14, et toutes les bêtes des champs. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te visera à la tête et toi, tu la viseras au talon. Ça va, mais j'ai l'impression qu'il y a des échos, non? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais il paraît que vous n'entendez plus quand le micro est trop bas. Bon, bon, bref. Si vous n'entendez pas, vous me direz. Donc là, vous voyez ce que l'on a vu, c'est le premier aperçu de ce combat, de cette confrontation entre là, la lignée de la femme, la descendance de la femme, et la lignée du serpent, qui est en fait le serpent lui-même.
Et Dieu annonce cette action de la descendance de la femme qui visera à la tête le serpent. Donc, il y aura quelqu'un, ou en tout cas un membre de cette descendance de la femme, qui écrasera la tête du serpent, ce qui est d'ailleurs le meilleur moyen pour le faire disparaître. Vous voyez, c'est l'annonce là où il y a quelqu'un qui n'est pas Dieu directement, qui a une responsabilité cruciale dans cette confrontation entre l'homme et le démon, inaugurée par la faute. Alors, là, il faudrait, vous voyez, reprendre l'histoire d'Israël et montrer toutes les figures correspondantes. Les juges, les rois, les juges qui délivrent Israël de la domination des Philistins. Les rois et David, David face à Goliath. Cyrus, dans le livre d'Isaïe, ce serviteur qui va être celui dont Dieu va se servir pour libérer Israël. Cyrus qui écrase les Babyloniens comme Perse et qui ensuite permet à Israël de revenir en Palestine. Ça, c'est le livre d'Isaïe. Et puis, ultimement, le Messie davidique. Loin, le Christ. Christ est le terme grec qui correspond à Messie, Meshia, terme hébreu. Toujours donc là, vous avez une espèce de figure du roi, du guerrier, du libérateur, dont Dieu se sert comme d'un instrument pour une action salvatrice par rapport à Israël ou par rapport à l'humanité. Et ça, c'est annoncé dès le protévangile. La médiation proprement parlée, si on reprend donc ce que nous donne saint Thomas, elle commence avec les prophètes et les prêtres. Donc, c'est ce que je vais regarder maintenant. C'est cette médiation dans le dessein de salut de Dieu, cette médiation prophétique et sacerdotale. Le grand médiateur, c'est Moïse, dans cet ordre prophétique. Moïse, qui est le seul, donc, on l'a vu, auquel le Nouveau Testament décerne le titre de médiateur. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Galates 3.19. C'est le même saint Paul qui, dans l'Épître à Timothée, dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus, entre Dieu et les hommes, qui parle de Moïse comme d'un médiateur. C'est toujours le même terme grec, messites. Mais Moïse, il est avant tout regardé comme prophète. À la fin du livre du Deutéronome, on nous dit « Il n'y a jamais eu, dans l'histoire d'Israël, il ne s'est jamais levé de prophète comme Moïse. » On va voir un peu cet aspect de la médiation prophétique de Moïse dans l'Exode, chapitre 19, les versets 3 à 9. Alors nous sommes donc, les fils d'Israël arrivent au désert du Sinaï. Nous sommes dans l'Exode, ils sont partis d'Égypte. Et ça va être le moment où le décalogue va être promulgué par Dieu. Alors je lis au verset 3. Quant à Moïse, il monta vers Dieu. Vous voyez cet aspect, Moïse qui monte vers Dieu. Cette proximité de Moïse avec Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu déclareras aux fils d'Israël. Donc cet aspect de la médiation par la parole. Moïse est prophète, il dit les paroles que Dieu lui demande de dire. Donc vous retrouvez le premier angle que l'on avait vu dans l'économie divine, qui est cet angle de la révélation. Alors, vous vous souvenez ce qu'on avait déjà vu ce matin dans l'Apocalypse. Première ligne de fond dans l'économie divine, toute cette révélation que Dieu fait de lui-même progressivement. Et là, il y a une médiation qui est la médiation prophétique. Alors, qu'est-ce que doit dire Moïse ? Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. L'histoire, donc, de la traversée de la mer Rouge. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené près de moi. Donc ça, c'est la, vous voyez, c'est ce qu'a fait Dieu en propre. Première chose qu'il affirme. Et maintenant, si vous écoutez vraiment ma voix, transmise par le prophète, cette médiation prophétique, et si vous observez mon alliance, toujours l'alliance qui est sous-jacente, vous serez mon bien particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est cette rédemption d'Israël qui a consisté à traverser la mer Rouge et à sortir d'Égypte, d'abord, institue un lien unique entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc ça, c'est ce qu'il redit là. Vous observez mon alliance, vous serez mon bien particulier parmi tous les peuples. Donc toujours cette connexion entre rachat et lien d'amour unique entre celui qui est racheté et Dieu. C'est vous qui serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Alors, on va revenir là-dessus. Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Moïse vint convoquer les anciens du peuple et il exposa devant eux toutes ces paroles, comme le lui avait commandé Yahvé. Tout le peuple répondit unanimement et dit, tout ce qu'a dit Yahvé, nous le pratiquerons. Donc, vous voyez, Moïse doit répéter ces paroles au peuple. Et le peuple acquiesce comme à Dieu. Moïse rapporta à Yahvé les paroles du peuple. Donc, ça marche dans les deux sens. Une espèce d'ascenseur. Voici que je vais venir. Pardon. Et encore Yahvé dit à Moïse. Donc. Vous l'avez cet aspect qui est très beau. Quelque chose aussi que les exégètes. Ça tracasse les exégètes. Bon, bref, ceux qui interprètent la Bible. Entre la fin du chapitre 19 et le début du chapitre 20. Entre 19 et 25. Et 21. Alors, l'exégète se dit, il s'est passé quelque chose. Au verset 25, Moïse descendit vers le peuple et leur dit, verset 1 du chapitre 20, Dieu dit toutes les paroles que voici. Vous voyez ? Moïse parle et Dieu parle. Les deux sont parfaitement emboîtés l'un dans l'autre. Ça, c'est la médiation prophétique de Moïse. Parallèlement à cette médiation prophétique, il y a une médiation sacerdotale qui lui est conjointe. C'est celle d'Aaron. En particulier. Je prends Aaron parce qu'il a comme mérite d'être le frère de Moïse. Donc on voit bien cette gémellité de la médiation prophétique et de la médiation sacerdotale. Avec la primauté dans la médiation prophétique à ce niveau-là. Moïse est, comme le dit un texte de l'Exode, dans Exode 4-6, quand, vous savez, Moïse commence à dire, moi je ne sais pas parler, et alors Dieu lui dit, bon ben très bien, prends ton frère, et il parlera pour toi, et tu seras un Dieu pour lui. Et c'est, le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, et il joue le rôle de Dieu par rapport à Aaron, qui n'est qu'un porte-voix en l'occurrence, mais qui va être revêtu de la dignité sacerdotale. Alors, avec cette médiation sacerdotale, on est dans le second ordre de notre économie divine, ce qu'on a vu ce matin, dans la seconde ligne de fond, qui est la constitution d'une communauté religieuse liturgique, ce qui ultimement donnera l'Église. Religieuse au sens de, d'un homme religieux, pas d'un couvent. Et alors là, c'est le verset sur lequel que je vous ai signalé tout à l'heure, le verset 19.6. Qui va avoir toute une postérité, évidemment, dans la Bible. C'est vous qui serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Et la Septante a traduit un royaume, un sacerdoce. Vous serez un royaume, une communauté politique parfaite, dont je suis le roi, et un sacerdoce, vous êtes des prêtres, ou vous êtes gouvernés par des prêtres. Bon, là, c'est pas très clair. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux types de médiation, cette médiation prophétique d'une part, et d'autre part, cette activité sacerdotale que Dieu donne à certains hommes. Alors, je vous propose de lire un petit passage où les deux médiations sont unies. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 20. Et on va voir comment ces médiations sont salvatrices, en un sens. C'est le fameux passage des eaux de Meriba. Donc, c'est les fils d'Israël qui, comme d'habitude, murmure. Je prends verset 2. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron. Donc vous voyez l'espèce de tandem, Moïse et Aaron, qui sont responsables. Leur médiation les rend responsables. Et la communauté se retourne contre eux immédiatement quand ça va mal. Le peuple chercha querelle à Moïse. Moïse, le premier. Entre les deux, c'est Moïse, le principal. Que n'avons-nous expiré quand expiraient nos frères devant Yahvé? Alors évidemment, parce qu'avant, il y a déjà eu un ensemble d'événements, un ensemble d'épisodes où les fils d'Israël ont murmuré, où ça s'est mal passé pour eux, et finalement, ceux qui ont laissé leur vie, les survivants, les envient. Pourquoi donc avez-vous amené l'assemblée de Yahvé dans ce désert pour y mourir? Pourquoi donc nous avez-vous fait monter d'Égypte? Ce n'est pas un lieu pour cela, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, pas d'eau à boire. Fameux oignons d'Égypte que nous connaissons. Là, ce n'est pas des oignons. Moïse et Aaron, quittant l'assemblée, et cet aspect d'assemblée qui va donner ecclésia, église, vinrent à l'entrée de la tente de la rencontre, où ils rencontrent Dieu. Et l'exercice de la médiation, là, qui va être sous un aspect d'intercession. Et ils tombèrent sur leur face. La prosternation, l'acte de la créature, ces médiateurs sont des créatures et vis-à-vis de Dieu respectent la transcendance de Dieu. Alors leur apparut la gloire de Yahvé. Yahvé parla à Moïse dans ces termes: prends le bâton et assemble la communauté, toi et Aaron, ton frère, puis vous direz au roc sous leurs yeux de donner ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du roc et tu feras boire la communauté et son bétail. Moïse prit le bâton de devant Yahvé, selon ce qu'il lui avait commandé. Moïse et Aaron assemblèrent l'assemblée devant le roc. Il leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce roc nous ferons sortir de l'eau pour vous? Moïse leva la main, de son bâton frappa le roc par deux fois. L'eau sortit en abondance, et la communauté but, ainsi que son bétail. Yahvé dit à Moïse et Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, pour faire éclater ma sainteté aux yeux des fils d'Israël, eh bien, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. Ce sont les eaux de Meriba. Donc vous avez donc le thème de l'eau. Cette médiation, guidée par Dieu, aboutit au don de l'eau, qui fait vivre, qui est indispensable pour la vie de la communauté. Vous savez que saint Paul reprend là une tradition rabbinique et montre que ce rocher, c'est le Christ. Donc, vous avez, ça c'est la réponse, 1 Corinthiens 10, 4. La relecture par saint Paul de ce passage où Moïse et Aaron sont censés frapper un roc qui se promène tout le temps avec eux dans la vision rabbinique, et saint Paul montre que c'est le Christ. Donc là, vous avez une lecture qui transforme l'histoire. L'histoire là de Moïse et d'Aaron, c'est cette médiation de Moïse et d'Aaron qui frappe le rocher et le rocher donne de l'eau. Saint Paul vous dit, ce rocher, en fait, c'est le Christ. Et vous avez donc là un premier avant-goût de ce qu'on va dire à la fin, c'est la manière dont le Christ résorbe, assume toutes ces différentes médiations dans l'unité. Il est celui qui exercera une médiation prophétique, celui qui exercera une médiation sacerdotale, et celui qui donne cette eau dans son sacrifice à la croix. Là, pour le moment, on est dans une dualité. Il y a Dieu qui donne à Moïse l'ordre de frapper le rocher, et le rocher donne de l'eau. Et ça se passe mal. C'est une médiation, celle de Moïse et Aaron, imparfaite. Alors, on ne sait pas très bien ce qui se passe, on ne sait pas très bien pourquoi ça se passe mal, mais en tout cas, Dieu n'est pas content. Verset 12, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour faire éclater ma sainteté aux yeux des fils d'Israël. » Condamnation, sanction, une sentence est portée contre Moïse, et contre Aaron aussi, et particulièrement contre Moïse, il n'entrera pas dans la terre promise. Donc, vous voyez là une médiation très particulière, mais dont l'imperfection éclate, Moïse mourra avant de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise, avant que le peuple d'Israël entre dans la terre promise. Alors, il faudrait, évidemment, on aurait beaucoup d'autres textes, et on pourrait montrer en particulier, ça je vous laisse le lire, c'est très amusant. Vous lisez dans le livre des Maccabées, le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 3. C'est un texte assez étonnant, quand vous avez mal à la tête de saint Thomas, passez à 2 Maccabées 3, où vous voyez une médiation incroyable du grand prêtre, Onias, en l'occurrence, qui vous montre bien l'importance dans l'économie divine de ce grand prêtre, petit descendant d'Aaron. Alors, je voudrais passer à l'autre type de médiation qui nous est présentée dans l'Ancien Testament, qui est une médiation d'un type très particulier, la médiation victimale, dans le sacrifice. Alors, je vous signale que sur le sacrifice, pour essayer de comprendre un peu ce qu'est le sacrifice, on se bat. Il y a beaucoup de polémiques pour essayer de déterminer la ratio sacrifici, c'est-à-dire ce qu'est le sacrifice, pour ceux qui ne sont pas dans le jargon. Alors, ce n'est pas la peine tellement de rentrer dans le... Dans le problème de savoir qu'est-ce que, si vous voulez, c'est très complexe d'essayer de comprendre ce qu'est un sacrifice. Et alors, comme il y a un brave homme qui a écrit un livre pour dire que finalement il était impossible de réduire à l'unité toutes les théories, essayant de rendre compte des différents sacrifices, des différentes dimensions du sacrifice dans l'Ancien Testament, je vous propose plutôt de regarder les textes de l'Ancien Testament pour essayer de comprendre ce type de médiation dans le sacrifice. Donc, vous voyez, le sacrifice, c'est cette offrande que vous pouvez faire à Dieu qui implique une immolation, parfois un repas de communion, qui implique parfois des actions d'expiation, où vous, vous avez un rituel d'expiation, où vous expiez les péchés, etc. Donc, je vous renvoie au Lévitique si vous voulez avoir des détails. Ce qui est sûr, c'est que le sacrifice est un acte religieux de la créature qui veut manifester quelque chose vis-à-vis de son créateur et qui généralement offre quelque chose en sacrifice. Au-delà, on se bat. Pour ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'agneau pascal qu'il faut regarder. Alors ça, c'est dans l'Exode. Au chapitre 12, les versets 1 à 13. Et ça, vous savez bien, en particulier comme préfiguration, quelle préfiguration étonnante de l'Eucharistie. Mais il y a une préfiguration, une dimension très importante de médiation par le sang. Alors, je prends au verset 3, Dieu qui dit à Moïse et à Aaron, parlez à toute la communauté d'Israël, donc toujours la médiation de Moïse et d'Aaron, le 10 de ce mois, que chacun de vous se procure une tête de menu bétail par maison. Verset 5, ce sera pour vous une tête de menu bétail. Ce qu'on appelle une tête de menu bétail, c'est mouton ou chevreau. Brebis ou chevreau, c'est ça le menu bétail. Ce sera pour vous une tête de menu bétail sans défaut, un mâle âgé d'un an, vous le prendrez, voilà, parmi les agneaux ou parmi les chevreaux. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et l'assemblée entière de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc l'immolation. Qui caractérise, si vous voulez, le sacrifice. Vous avez des offrandes qui sont sacrifices avec ce caractère d'immolation. Enfin, selon certains. On prendra du sang et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons dans lesquelles on la mangera. On mangera la chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des azimes et des herbes amères. Donc vous voyez que vous avez une offrande, vous offrez quelque chose qui vous appartient, une tête de menu bétail, une immolation et un repas de communion. On mange ce qui a été immolé. Offrande, immolation, et repas de communion qui concerne la communauté, ici la maison paternelle, chaque maison. Et il faut vraiment se réunir. Un ordre donné à la communauté pour chaque maison paternelle. Alors, au verset 12, voilà là où cette immolation va avoir une efficacité protectrice. Je passerai cette nuit, c'est toujours Dieu qui parle, je passerai cette nuit-là dans le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et de tous les dieux d'Égypte, je ferai justice, moi, Yahvé. Le sang servira de signe pour vous sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je sauterai au-delà de vous. Et il n'y aura pas pour vous de fléau exterminateur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là vous servira de mémorial, donc autre dimension mémoriale. Mais surtout, c'est la dimension importante, c'est que ce sacrifice a, dans l'événement de la Pâque, dans l'événement de ce rachat, comme on a vu, a comme efficacité de jouer un certain rôle de signe qui permet à ces maisons qui ont immolé l'agneau ou le chevreau, d'échapper au fléau, au châtiment que Dieu fait subir au pays d'Égypte et plus exactement au premier-né. Alors là, vous avez évidemment avec le thème de premier-né, ça rentre, ça joue. Avec ce qu'on a vu sur le rachat. Il y a tout au chapitre suivant de l'Exode, Exode 13:13. Vous avez tout un jeu de substitution. Le chapitre 13 vise la consécration, qui est toujours le même terme traduit en grec. Agiazo, sanctification, consécration. Et là, Dieu demande qu'on lui consacre les premiers-nés. Tous les premiers-nés. Vous l'avez au début du chapitre 13. Il y avait parlé à Moïse en ces termes, consacre-moi tout premier-né. Il y a un problème lorsque le premier-né est un animal impur, impropre au sacrifice. Le cas de l'âne. L'âne, vous ne pouvez pas le sacrifier dans le rituel hébreu. Donc il va falloir inventer une substitution. Il faut trouver quelque chose d'autre pour cette âne. Et donc je vous lis le verset 13. Tout âne sorti le premier du sein, qui est donc normalement concerné, puisqu'il s'agit de consacrer à Dieu par un sacrifice, tous les premiers-nés. Tu le libéreras par une tête de menu bétail. Si tu ne le libères pas, tu lui briseras la nuque. Tout premier d'homme parmi tes fils, tu le libéreras. Donc aussi bien pour l'âne ou pour l'homme, puisqu'il n'est pas question de sacrifice humain, il faut une libération qui est en fait ce fameux rachat, le même terme pada qu'on a vu. Vous ne pouvez pas sacrifier que ce soit un animal impur ou un homme. Vous lui substituez un autre animal qui pourra être sacrifié. Vous voyez cette importance de la substitution. Et vous trouvez, je vous le redis, le même terme rachat que l'on a vu pour la manière dont Dieu rachète, en particulier dans l'Exode. Vous rachetez ce que feront Joseph et Marie lors de la présentation au temple, hein, de l'enfant Jésus. Vous rachetez donc un animal qui ne peut pas être sacrifié, et l'animal substitué et lui sacrifié. Donc il y a la notion à la fois de rachat et de sacrifice sanglant. Vous voyez, il y en a un qui est immolé de manière sanglante afin que l'autre vive. Et ça vaut pour le premier fils d'homme. Et donc ça, c'est sous-jacent dans le rituel de la Pâque qui se fonde sur cet événement dans l'histoire d'Israël où les fils d'Israël ont immolé des agneaux ou des chevreaux qui ont permis, par le signe du sang, de protéger leur premier-né. Donc la consécration des prémices, avec ce rituel un peu compliqué, la substitution, en fait, renvoie à l'événement de la Pâque, tel qu'il est en plus commémoré ensuite, chaque année par Israël. Alors, il faudrait maintenant regarder dans cet aspect victimal le grand texte, le quatrième chant du serviteur en Isaïe 53. Vous savez que donc à la fin du livre d'Isaïe, on a déjà un peu aperçu par certains côtés, vous avez à partir du second livre d'Isaïe, du chapitre 40, vous avez ce qu'on appelle les chants du serviteur. Ces poèmes très mystérieux où on parle d'un serviteur. Et le quatrième chant, il y a quatre chants, présente un serviteur souffrant. Donc ça commence en fait au chapitre 52, verset 13, jusqu'à 53, à la fin, 12. La distinction des chapitres n'est pas révélée, hein, donc ça correspond plus ou moins. Donc au verset 13, « Voici que prospérera mon serviteur. » Donc, voilà, ça c'est la petite marque. On parle du serviteur, chant du serviteur. Bon. Et au verset 14, tout de suite, on nous parle d'un aspect défiguré, qui n'a plus rien d'humain. Je prends tout de suite au verset 4. Ce sont nos maladies qu'il portait, nos douleurs dont il prenait la charge. Et nous, nous l'estimions frappé, atteint par Dieu et humilié. Mais lui, c'est à cause de nos forfaits qu'il était transpercé, à cause de nos fautes qu'il était écrasé. Le châtiment qui nous vaut la paix, le châtiment, on l'a déjà signalé dans l'Exode, tous ces châtiments qui tombent sur le pays d'Égypte au moment de l'Exode, tombent maintenant sur ce serviteur. Le châtiment qui nous vaut la paix était sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Évidemment, vous retrouvez là quelque chose qui est repris par saint Pierre dans son épître. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun notre chemin. Et Yahvé a fait retomber sur lui notre faute à nous tous. On le maltraite. Et lui s'humilie et n'ouvre pas la bouche. Alors voilà ce qui est important. Comme un mouton, enfin tout est important, mais ce que je veux montrer, pour ce que je veux montrer, comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre pas la bouche. Donc les comparaisons que l'on nous donne, les images que l'on nous donne pour nous parler des serviteurs souffrants, c'est des animaux de sacrifice. Le mouton, la brebis, c'est pas l'âne. C'est les animaux que l'on peut sacrifier. Donc sa vie se termine dans un sacrifice. Ce qu'on nous décrit du serviteur souffrant dans Isaïe 53, c'est une dimension de sacrifice. Alors, vous le retrouvez à verset 10. Yahvé a voulu l'écraser, il l'a rendu malade. S'il fait de sa vie un sacrifice de réparation. Alors, voilà. Le mot est lâché. Ce que ce matin, je vous disais, quand Jésus, lui, parle de l'utrone, là, vous avez sacrifice de réparation. Dans l'Évangile, Jésus parle de l'utrone, rançon. Dans des termes qui font référence à Isaïe 53, verset 10. Mais là, vous avez l'aspect de sacrifice. Ce que hostie traduit donc par sacrifice de réparation. Vous avez quoi dans Jérusalem ? Expiation. Alors ça, c'est un terme technique. Du rituel détaillé dans le Lévitique. Dans le Lévitique, vous avez tous les différents sacrifices. Et là, vous avez le terme technique, alors je ne vais pas dire de bêtises, c'est quoi ? Hacham. Hacham, c'est le sacrifice de réparation, donc. Ou sacrifice d'expiation. Et je vous renvoie, si vous voulez avoir la description de ce que c'est qu'un hacham, à Lévitique 5, 15, 26, ou Lévitique 6, 10, et 19, 21. Donc, c'est très précis comme terme, c'est ça que je vous dis. C'est très technique, c'est pas sacrifice. On peut lire la suite, qui est quand même magnifique. s'il fait de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, prolongera ses jours. Il aura une vie qui se prolongera. Et la volonté du Seigneur réussira dans sa main. Verset 11, « Mon serviteur juste en justifiera beaucoup. » Vous trouvez le « beaucoup ». Je vous ai dit ce matin que c'était un hébraïsme pour tous qui sont beaucoup. Et c'est lui qui prendra la charge de leur faute. Donc toujours cet aspect d'un rachat qui là prend l'aspect d'un sacrifice qui justifie et supprime les fautes. Et au verset 12, il s'est livré lui-même à la mort. Cet aspect du sacrifice volontaire d'une personne. Et avec des coupables, il a été compté, alors que lui-même a porté le péché de beaucoup, toujours beaucoup, et que pour les coupables, il intervenait. Donc vous retombez sur cette intervention gratuite pour des gens qui n'ont rien fait pour le mériter. Il intervient pour des coupables. Bon. Il faudrait gloser. Hein, mais... Alors, vous voyez que par rapport au Christ, pour revenir au Christ, le Christ, nous dit saint Paul, c'est le médiateur unique, dont tous les autres ne sont que des préfigurations. Donc tout ce que nous avons vu, ce sont des petites lumières préfiguratives du Christ. Évidemment, ce texte d'Isaïe 53 est le plus parlant. Le Christ, il est roi. Qu'on fait l'entrevue avec Pilate. J'ai une telle référence, je suis en train de me demander ce que c'est. Ah oui, c'est ce que lui dit aussi le bon larron, quand tu viendras dans ton royaume. Hein, le bon larron, il est dans un spectacle atroce, il y a du sang, ça sent mauvais, comme dit saint Thomas, et il parle de royaume. Il est libérateur. Vous l'avez dans l'évangile de Luc, au début, lorsque Luc, au chapitre 4, 18, vous savez, c'est Jésus qui, dans la synagogue de Nazareth, lit ce passage et se l'approprie. Je suis venu proclamer l'Esprit du Seigneur sur moi, je suis venu proclamer la libération pour les captifs, etc. Et puis, il est la vérité, dans saint Jean, et la vérité vous rend libre. Il est prophète. Dans saint Jean, vous avez régulièrement les foules qui disent « C'est le prophète !» Ça commence par la Samaritaine. « Je vois que tu es un prophète. » Parce qu'il lui a dit qu'elle avait cinq maris. Il est grand prêtre, ça on l'a dit, c'est l'épître aux Hébreux. Il est victime. C'est tous les récits de la Passion qui détaillent cet aspect victimal. Donc, dans la vie du Christ, qui est une vie d'offrande, ça vous l'avez dès l'épître aux Hébreux, cet aspect d'offrande de la vie du Christ, au chapitre 10 de l'épître aux Hébreux. Vous savez, c'est là où il fait un passage, Hébreux 10, 5. Où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit « Sacrifice et offrande, tu n'en as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Holocauste et sacrifice pour le péché, tu ne les as pas agréés, alors j'ai dit « Voici, je viens. » Donc, toute la vie du Christ, dès l'incarnation, dès la conception, est une vie d'offrande, qui culmine dans l'Holocauste et l'immolation de la croix. Et dans cette vie d'offrande, le Christ unit tous les types de médiation que nous avons détaillés. Cette médiation, cette espèce de médiation du côté du roi, cette médiation prophétique, cette médiation sacerdotale, et ultimement cette médiation victimale. Et cette médiation unique du Christ, où culminent tous les types de l'Ancien Testament, elle atteint son sommet à la croix, qui est le grand acte royal, prophétique, sacerdotal et victimal du Christ. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean vous présente la croix comme le lieu où sortent du cœur blessé, du cœur transpercé, le sang et l'eau, qui sont ce que l'on a retrouvé tout au long de notre lecture de l'Ancien Testament, comme des espèces de petites marques qui signalent la médiation. Ça, vous savez, c'est Jean au chapitre 19:34. L'un des soldats de sa lance lui piqua le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Et l'ordre n'est pas fortuit, c'est le sang puis l'eau. Ce qui est premier, c'est l'aspect victimal. C'est l'holocauste qui est vivifiant. C'est le sacrifice qui est rédempteur. Pourquoi ?